Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde, bonjour Christophe.
Bonjour Catherine, bonjour Olivier, bonjour
oui,
à tous.
Oui, Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et donc, vous venez déjà de l'entendre avec nous, Christophe Barbier, éditorialiste tous azimuts, dramaturge, acteur, écrivain, qui vient de publier « Macron sous les masques ». Alors, je ne vous dis pas est-ce que Macron est ou n'est pas. Clémenceau, Gambetta, Valérie, Pompidou, Louis XIV, Henri IV, Napoléon, Bolivar, Lafayette, Titus, Dioclétien, Brutus, j'en saute, hein, François Guizot, PMF, Hegel, Ricoeur, etc. Chou ! On sort du livre, très enrichi de culture, et avec son talent habituel, il va nous commenter l'actualité. Mais d'abord, l'invité d'Europe 1, Barouin. Enfin, Barouin, Canteloup.
À droite, on parle de plus en plus de François Barouin pour la présidentielle de 2022. Bonjour François Barouin.
Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard.
Oh la voix.
Écoutez, tout cela est très prématuré. Ce qui m'intéresse, vous l'avez compris, c'est l'état de mon pays, de ses territoires. J'ai toujours été passionné par, vous savez...
François Président, ouais. Salut la Leclerc, salut Béliard.
Bonjour Nadine Morano.
Ben ouais, 2022, la Nadine, elle vote Barouin. Votez Barouin, Barouin c'est le champion, Barouin c'est le meilleur. Pourquoi? Parce que lui et moi, on a les mêmes idées. Vous voulez une Nadine en mieux? Eh ben, votez Barouin.
Voilà, merci Nadine. C'est très gentil à toi d'être passé pour revenir au territoire que j'évoquais
précédemment.
Mais
attends François, parle pas aux gens de trucs chiants. On sait chiant ce que tu dis, tu seras jamais élu comme ça. Il faut les faire bander. Tu leur vends du rêve. Explique qui t'aura comme ministre. Par exemple, le Populo, il adore le name dropping. Tu lui dis le nom des ministres. Moi, je suis chaude à 100%. Je mettrai toute mon intelligence à ton service. Voilà.
Bien, merci Nadine, c'est très gentil à toi. Voilà, au revoir. Donc je vous disais concernant le territoire que j'étais très occupé
Barouin,
par une...
François Barouin, c'est l'homme politique du jour le plus concomitant de toute la droite.
Ah donc Jiminy Cricket est là aussi. Mais donc pas de sécurité européen. Je veux vous dire que même au siège du parti, il ne rentre pas aussi facilement.
Allez,
donc
concernant le territoire, on sera vous... avec toi jusqu'à la dernière seconde. On ne te lâchera pas, on ne te quittera jamais.
Ça va être dur.
Ah, ça va être dur comme vous dites, hein, François Barouin.
Première question, Christophe Barbier, est-ce que pour des politiques, c'est une bonne chose d'être imité, raillé par Canteloup et autres?
Oui, bien sûr, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous entrez dans un club assez fermé de ceux qui ont dépassé leur propre personne pour devenir un personnage politique. Et c'est dans ce club des personnages que le peuple va puiser tous les 5 ans maintenant son chef.
Alors, contradiction, je ne suis pas absolument certain que les imitations de Nadine Morano soient très très bonnes pour Nadine Morano.
Mais Morano, là, est dans les rôles secondaires. Ce qu'il faut, c'est être imité dans la première classe, vous savez. Alors, jadis, c'était le bébé de show, les ancêtres. Il y avait très peu de place dans le bébé de show, finalement. C'était toujours les mêmes. Et donc là, c'était la première classe. Après, derrière, on a construit toute une série de rôles secondaires par les guignols ou par les différents imitateurs. Mais vous savez, en être, ça veut dire qu'on est déjà devenu un personnage grand public. Ça permet des espoirs.
Oui, mais en être dépend aussi du talent de l'imitateur qui arrive à imiter les voix, c'est ça. Alors, il y en a qui reviennent tout le temps parce qu'il sait, oui. Nicolas Canteloup sait qu'il réussit très bien Nadine Morano ou alors
Ségolène
Royal, c'est toujours
le
les mêmes qui
reviennent.
Oui, c'est ça, donc c'est très drôle. Et peut-être que beaucoup d'imitations, comme trop d'imitations, tu les imitations, c'est peut-être un peu lassant. Mais moi, ça me rappelle aussi qu'avant les imitations, vous voyez, François Giroud qui attaquait toutes les semaines un politique, et on voyait bien qu'être attaqué par lui, être cité, ça pouvait revenir souvent, était quelque chose qui l'irritait beaucoup. Mais les plus malheureux étaient ceux dont elle ne parlait jamais. Donc moi, je pense que les plus malheureux sont ceux qui ne sont jamais imités.
D'accord. C'est Henri Tizot qui a commencé en imitant le général de Gaulle. On trouvait ça sacrilège. Ah, c'est dire aussi à quel point...
La dépigeonisation
voilà, à quel point la fonction présidentielle, les fonctions politiques ont été rabaissées, mais... Peut-être au sens noble du terme, c'est-à-dire rapprocher du démos, rapprocher du peuple.
Et juste par curiosité, il vous a déjà imité, Canteloup, Catherine?
Non.
Non? Ben, il faudrait qu'il s'y
je
mette.
Je suis
alors.
Inimitable. Que vous
ah,
vous.
Voilà. Ça...
Non, mais parce que je ne l'intéresse pas du tout. Il imite pas les journalistes.
Oh, si, si, il imite quand même. En tout cas, il imite celui qui anime la matinale, par principe.
Oui.
Voilà. Et puis il imite. Mais bien, bien, bien Jean-Michel Apathy. Hein. Oui. Franchement, il le fait parfaitement. Bon, allez, on va passer à une question plus grave. On sait qu'il y a eu 13 soldats tués dans un accident au combat, pour le dire comme ça, au Mali. Et on a eu l'impression, dans un premier temps, que le débat était impossible, puis qu'il s'est considérablement ouvert. Écoutez, c'était mardi, dans le Grand Journal du Soir, avec Nathalie Lévy, écoutez le colonel Frédéric Barbry, porte-parole de l'état-major des armées.
Ça fait bientôt 7 ans que nous sommes au Mali, colonel. Est-ce que la situation n'est pas en train de s'enliser ?
Non, les signes sont encourageants. La posture est certes difficile, mais aussi bien le président de la République que la ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées appellent à une patience stratégique. Il va falloir œuvrer dans le temps long.
Alors il faut rester au Mali ? Colonel, c'est ce que vous nous dites ce soir, il faut rester au Mali.
Écoutez, c'est tout l'honneur de la France que de pouvoir souscrire et d'honorer ces engagements. Nous avons été appelés par nos partenaires pour rétablir une situation difficile. La mission continue et nous le ferons avec détermination.
Alors, on a l'impression qu'il y a une question dans ce qui est permis et ce qui n'est pas permis en médias politiques. Il y a un premier moment quand il se passe une catastrophe comme celle-là, où le consensus est obligé. Et où si on pose trop vite la question de notre présence là-bas, ça heurte les consciences et il faut un décalage de quelques jours. Est-ce que ça fonctionne comme ça ? D'ailleurs, est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça ? Toujours en cas de deuil subit. Je me souviens que la première erreur, pour prendre un équivalent politique qui apparemment n'a rien à voir, la première erreur de campagne de Jacques Chaban-Delmas en 1974, ça avait été d'annoncer sa candidature alors que Pompidou n'était pas encore enterré.
Oui, bien sûr. Le moment de l'émotion n'est pas le moment de la raison. On peut poser tous les débats, on peut mettre en question la présence militaire française au Mali ou d'autres choix, mais jamais quand on est dans ce temps de l'émotion. Alors, il ne faut pas non plus que ce temps de l'émotion s'attarde trop. Il faut dire assez vite les choses qui fâchent, mais qui peuvent être nécessaires à une amélioration de la situation. Mais à chaud, c'est toujours déplacé. Parce que ça donne l'impression, dans le cas précis du Mali, que vous dites, bah, finalement, on l'a bien cherché, en tout cas, on ne devrait pas y être. C'est quelque part, c'est de notre faute. Si on n'était pas dans cette présence post-coloniale, nous ne serions pas dans cette situation avec 13 morts. C'est un peu ce qu'on a entendu dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, le jour même de ce drame. C'est pas le bon moment. Le bon moment pour poser le problème de la présence française au Mali, c'est par exemple le moment des élections au Mali. Quand dans la campagne au Mali, certains disent les Français doivent partir. Oui, on peut aller dans ce débat et dire il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Mais quand on est face à un drame, on n'a pas le droit d'en profiter pour essayer de pousser un raisonnement politique. Évidemment que les familles de ces 13 militaires et qu'une partie de l'opinion se dit, ah mais si on n'y allait pas là-bas, on n'aurait pas ces morts. Donc évidemment que tout de suite, la question se pose. Mais ce n'est pas parce qu'elle se pose qu'un homme politique doit la poser.
Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'à l'heure où on dit que les réseaux sociaux, les chaînes d'information continuent, etc., ont tout changé, que maintenant tout est permis et tout, ce n'est pas vrai. Il y a des règles ancestrales, comme la règle du respect minimum du deuil, qui s'impose encore, même dans un monde par ailleurs médiapolitiquement totalement différent.
Oui, mais comment pourrait-il en être autrement ? Tous les journaux ont montré les photos de ces hommes, tous jeunes, avec, voyez, et tous dans cette photo où ils posaient, avec ce regard où on lisait le courage, l'engagement, et puis c'était charrié de la jeunesse. Avec
à Europe, on a reçu Jean-Marie Bocquel qui a perdu son fils.
Donc, vous voyez, et tous, ouais. Tous, ils étaient des pères ou ils allaient être pères, c'était des fils, des frères. Et je veux dire, l'irréparable a été commis pour leur famille. C'est un deuil, c'était un malheur. Et comment parler, comment ne pas être dans la compassion et dire, eh bien, c'est vrai, s'ils n'étaient pas partis au Mali, ils seraient encore vivants. Mais c'était leur engagement, c'était aussi le risque du métier et le fait que... Et j'étais, vous savez, dans le Figaro, il y a un petit sondage tous les jours et les lecteurs du Figaro, grosse majorité, disent que l'opération doit continuer. Parce que c'est aussi la sauvegarde... Voilà, en tous les cas, le message français de dire qu'on se bat contre les djihadistes et qu'on protège ainsi l'Europe et peut-être la France, en tous les cas, ce message-là est passé.
Et puis très vite, Emmanuel Macron, on voit ça dans quelques instants.
Jusqu'à 11h sur Europe 1, c'est Mediapolis, Olivier Duhamel et Catherine Ney. Nous vous retrouvons ce matin aux côtés de Christophe Barbier, éditorialiste à l'Express et auteur de Macron sous les masques, paru le 13 novembre aux éditions de l'Observatoire.
Alors Macron va y revenir justement, comme annoncé, mais juste avant, puisqu'on parle de votre livre, dans votre livre, à un moment, peut-être par inadvertance, encore que de votre part ça m'étonnerait, vous dites il n'y a qu'un homme d'État dans ce gouvernement, Macron mis à part, il n'y a qu'un homme d'État, c'est Bruno Le Maire. Est-ce que vous dites ça parce qu'il est normalien comme vous, parce qu'il est issu de l'école normale supérieure?
Non, ça ne suffit pas d'être normalien pour être homme d'État. hélas. Non, il est homme d'État parce que son parcours, directeur de cabinet à Matignon sous Villepin, ministre ensuite sous Sarkozy, sa vision de la politique et sa vision littéraire, parce que c'est aussi le plus grand styliste de la classe politique française en ce moment. C'est le seul qui peut écrire des livres dont la qualité littéraire se hausse au-dessus de la moyenne des politiques. Eh bien, tout cela fait de lui un homme d'État. Il a écrit un livre qui s'appelait « Des hommes d'État ». Rappelez-vous, c'était la confrontation Sarkozy-Villepin pendant ces années 2005.
Son meilleur livre.
C'était formidable. Ouais. Sans doute son meilleur livre. On pourrait en faire d'ailleurs une magnifique pièce de théâtre de cette confrontation.
C'est ça qui vous plaît.
Ah oui, c'est formidable. Ça, ouais. Mais sa vision des choses, et on la voit encore dans son dernier livre très émouvant, Paul, où il compare, où il met en parallèle la destruction d'un ami par la maladie.
Vous arrête, sinon vous allez faire toute l'émission sur
Bruno Le Maire. Ça crée des différences entre les technocrates qui sont dans ce pouvoir et certains très bons. Mais je pense qu'Edouard Philippe est un très bon gestionnaire.
Et qui a écrit un livre très intéressant, Les hommes qui lisent, lui aussi. Il a un style qui est intéressant.
Bien sûr.
Alors, est-ce qu'il est un homme d'État?
Non,
parce qu'il écrit bien.
Non, mais je crois que ça ne suffit pas. On peut être un homme qui tient l'État, qui fait fonctionner l'État, qui connaît parfaitement les rouages de l'État, sans être un homme ou une femme d'État. Nicole Belloubet est sans doute une garde des Sceaux qui connaît très bien les rouages de la justice. On ne peut pas dire que la justice est en pagaille depuis qu'elle est là. Ce n'est pas une femme politique, dont l'essence personnelle est politique. Elle est venue par la profession, sa profession, à la politique en Midi-Pyrénées, puis maintenant au niveau national. Et ce n'est pas une femme d'État.
Et
dans
c'est
la
quoi
mesure,
votre critère je sens
ce
que
sont des critères qui ne sont pas forcément rationnels. C'est aussi une impression.
À part normalien, c'est quoi?
C'est la manière de vivre le rapport au pouvoir. C'est la manière de vivre la relation que l'on a quand on est au pouvoir.
Vous trouvez que, Catherine, que le rapport au pouvoir de Bruno Le Maire le distingue radicalement des autres, là?
Écoutez, je ne m'en étais pas fait la réflexion.
Non, c'est
mais sans doute est-ce une lacune.
Non, mais c'est non. Subjectif.
Ah, mais complètement.
C'est une impression que l'on a face à des hommes ou des femmes politiques en se disant, lui, elle, a quelque chose de différent. En revanche, je pense que Bruno Le Maire, hélas pour lui, n'est plus adapté à notre époque. Que c'est un homme d'État qui, dans les premiers temps de la 5e, serait arrivé au sommet, assez logiquement,
d'accord,
mais qui, depuis Macron, se retrouve décalé. Il est anachronique. Bien qu'il soit jeune, Macron n'a pas
pourquoi
seulement fait
parce
tomber
que,
les deux partis.
Comme dit Nadine Morano, il est chiant.
Non, pas du tout, mais parce que il n'est pas adapté à cette ère des réseaux sociaux, il n'est pas adapté à une ère médiatique où la séduction, la percussion par le numérique et par l'image devient prépondérante voire essentielle. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait beaucoup de mal à voir arriver au sommet un Mitterrand ou un Pompidou, parce qu'il n'avait pas les codes de notre ère où d'un tweet on peut faire une carrière en défaire une autre.
Et alors qui
et Bruno
a les
Le
codes
Maire est un peu de ce monde
qui
ancien.
Qui a les codes alors chez les
Macron
républicains
les a. Macron les a, il les a eus et il continue à les avoir.
Et à sa droite?
À sa droite.
Dans le trio là, dont on nous parle tout le temps en ce moment, Baroin, Bertrand, Pécresse, est-ce que quelqu'un les a?
Je pense que Bertrand les a un peu plus, mais il ne les a pas déployés. Je crois qu'il a compris cette nouvelle ère numérique, cette ère des réseaux sociaux, mais il n'a pas encore déployé cela. Je pense que François Baroin ne les a pas, mais il s'arc-boute sur la France des territoires, donc il essaye de nous vendre un ragoût plus à l'ancienne. Et je pense que Valérie Pécresse est dans la région pour les avoir, mais que les Français ne considèrent pas qu'elle a ces nouveaux codes. Et donc elle doit faire muter son personnage pour qu'à un moment donné, les Français se disent bah tiens, si finalement elle était moderne, elle est dans cette modernité. Mais c'est très difficile. Après, c'est dans le feu de l'action qu'on le verra. Il faut d'abord se lancer dans une campagne.
Et puis qu'est-ce après, que vous faites si vous du fluide ça. De l'autorité dont parlait le général de Gaulle et qui était indispensable et qu'avait Pompidou, qu'avait Nicolas Sarkozy d'une certaine manière. Et moi, par exemple,
vous
voyez
Macron
sur.
A, vous pensez
que Macron a.
Vous savez, le.
Que Macron a eu et un peu perdu, je trouve.
Ça flotte, ça clignote chez Macron. Pourquoi?
Oui,
parce que aujourd'hui, la politique, ce n'est plus seulement le fluide de l'autorité, c'est-à-dire la verticalité, c'est aussi l'horizontalité. Être capable d'être de plein pied avec les gens. Chirac avait ça à sa manière, Sarkozy aussi. Ils avaient compris qu'il fallait ajouter de l'horizontalité. Je suis comme tout le monde au milieu de tout le monde
sûr.
À la verticalité.
On l'a souvent
Macron
dit
l'a
ici.
Fait.
On l'a
mais
très
Chirac,
souvent
avait,
dit ici.
Chirac avait peu de verticalité,
question,
plus d'horizontalité.
Si on reste sur le fluide de l'autorité dont nous parle Catherine, par exemple, quand il dit des choses qui ne se disent pas, que normalement on garde pour soi, quand il parle de l'OTAN en mort cérébrale, ou quand il dit sur le Mali, c'est important de l'écouter. On va l'écouter dans moins de 2 minutes, juste après une petite pause.
Médiapolis, c'est tous les samedis matins jusqu'à 11h sur Europe 1. Christophe Barbier est éditorialiste au magazine L'Express et votre invité aujourd'hui, Catherine Ney et Olivier Duhamel.
Et à force de dire qu'on va écouter Macron, il est temps de respecter l'engagement. Allez.
Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je lui dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique.
C'était au micro d'Europe 1, jeudi 28 novembre, ce jeudi, à l'issue de sa rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Alors, c'est la question assez délicate et intéressante, elle aussi très médiapolitique. Jusqu'où a-t-on le droit d'aller? Alors, on pourrait dire, dans le fond, il n'y a plus de limite. Quand on voit cette semaine, bon, on ne va pas s'attarder dessus parce que c'est une image et qu'on est à la radio, mais quand on voit cette semaine le président des États-Unis se mettre en Rocky, torse nu, et puis ensuite, quand on l'entend expliquer que, de toute façon, il ne met pas de cravate quand il va à l'hôpital parce qu'on lui fait enlever et que tout le monde dit quel beau torse vous avez, on se dit, bon, on vit dans un monde où tout est possible. Mais est-ce que, ce qui n'est pas vrai, hein, en France, on ne pourrait pas faire des choses comme ça quand même. Mais en revanche, il y en a qui ont critiqué Macron de dire toutes les options sont ouvertes. Comme si c'était même chose que d'ailleurs la mort cérébrale de l'OTAN. Comme si
se retirer était possible. Hein,
c'est non, ça non, non, que c'est certains... pas tellement ça. Non, mais avant même ça, Catherine.
Oui.
Avant même ça, l'idée c'est que il y a des questions qui peuvent être posées par des commentateurs, par des think tanks, par des spécialistes de géopolitique, mais pas par le président lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ou est-ce que au contraire s'il s'agit de dire des choses justes, et peut-être que c'est juste de dire on doit étudier toutes les options pour mieux justifier après le fait qu'on reste. Mais ça ne se dit pas.
Si, désormais, c'est le président qui doit dire les choses. D'abord parce que dans la Macronie, personne n'existe ou presque à part lui. Et donc ce qui n'est pas dit par Macron n'a pas de valeur, n'a pas de force de percussion dans le débat politique. Et puis les Français considèrent qu'ils ont élu un homme, le président de la République, et donc les autres y comptent pas. Ils veulent parler au directeur, les Français. Ils veulent que leur directeur leur parle. Que ce soit parce qu'il y a des inondations près de chez eux ou qu'une usine a brûlé. Ils ont reproché à Macron d'être venu trop tard à Lubrizol, à Rouen, alors que des ministres avaient défilé. Mais ça ne compte plus, les ministres. On veut le président. Et c'est pareil pour ces sujets-là.
Et
tant que le président n'a pas parlé,
est-ce qu'il a raison,
le propos n'existe pas.
Tort de dire toutes les options sont ouvertes.
En tous les cas, lorsqu'il dit qu'il faut une plus grande implication des alliés, bon, c'est souhaitable. Mais il faut quand même, si on fait l'historique, lorsque François Hollande, à la demande du Mali, est intervenu à envoyer l'opération Serval, parce que les djihadistes avaient envahi les deux tiers du territoire et s'approchaient de Bamako, il n'a pas demandé l'avis de l'Union. Il est parti, d'ailleurs, s'il avait demandé l'Union et l'accord, peut-être qu'on aurait attendu trop tard et le pays aurait été perdu. Donc il s'est engagé, il est parti tout seul. L'opération Serval a très bien réussi, puisqu'au bout d'un mois et demi, tous les djihadistes avaient été écartés, sauf que le politique n'a pas suivi. Comme il n'y a pas d'État malien, eh bien l'État malien n'est pas venu dans les villages, dans les contrées, pour organiser un début d'État avec des écoles et tout ça. Donc il ne s'est rien passé. Donc au bout d'un moment, eh bien, les djihadistes reviennent. Donc c'est un peu Sisyphe, hein, on n'arrête pas.
Mais ça, c'est terrible. Moi, je pense que c'est terrible dans le discrédit du politique, si vous voulez. C'est que ce qui marche, c'est le militaire. Mais dès qu'il s'agit, indépendamment du militaire, de faire un travail politique, c'est le désastre et le ratage complet en Afghanistan, où on en est quand même à ce que les Américains maintenant veulent qu'on remette les talibans alors qu'ils ont fait la guerre contre les talibans.
En Libye.
C'est le désastre en Libye, c'est le désastre et le bain de sang en Irak, et c'est en tout cas l'absence de reconstruction d'un État au Mali. Et donc doivent se dire quand même, mais ces politiques sont des incapables, non ?
Oui, mais c'est parce que l'ingérence ne marche jamais en politique. Elle marche en militaire, ça s'appelle faire la guerre, pour se projeter des forces, mais après elle ne marche pas en politique.
Donc
il faut que les sociétés démocratiques locales produisent leur propre stabilité politique. Ça ne se fait pas en un an et demi. Ça ne s'est pas fait en un an et demi dans notre continent européen. Ça s'est fait en plusieurs siècles.
Donc il faut qu'on reste plusieurs siècles au Mali.
Non, il faut être patient et n'y être quand notre sécurité est en jeu,
c'est
ou que quand des impératifs humanitaires s'imposent, comme par exemple au Rwanda. Là, c'est le cas. Au Sahel, c'est le cas. Mais c'est le cas pas que pour la France. C'est le cas pour tous les Occidentaux qui peuvent être victimes d'attentats perpétrés, organisés depuis ces zones-là. Donc il faut que tous les Européens s'y mettent, ceux qui ont des soldats en envoyant des troupes, ceux qui n'en ont pas en envoyant de l'argent, en payant l'effort français. Et il faut commencer au niveau européen par une chose très simple, retirer du calcul des 3% de déficit de la France toutes nos dépenses militaires. C'est ce que demande la France depuis des années. Oui. Et les Allemands disent non. Ben, faut le faire de nous-mêmes. Oui. Faut dire, mais si on a rendu une copie propre, regardez, on a retiré les dépenses militaires, mais on est à 3%. Oui. Il faut le faire de nous-mêmes.
Je crois que l'Allemagne bouge un peu. Alors d'abord, faut dire qu'il y a 1000 soldats allemands à Gao qui font quoi ? Eh bien, il y a des avions allemands et c'est quand même la base logistique de l'armée française. Parce que quand les soldats français sont sur le terrain, dans le désert, et vous savez qu'il faut 30 litres d'eau par soldat par jour, et plus la nourriture, qui amène cette logistique-là ? Ce sont les Allemands, et qui font aussi des patrouilles autour de Gao, mais ils ne sont pas au combat, c'est vrai. Et
que les 1000, je crois que votre chiffre est un peu...
Quoi ?
Je crois que 1000, vous
voulez... Il y en a 500 qui sont avec la Fort-Pronu, et puis 500.
Ah, d'accord,
voilà. Mais il y a aussi, les Anglais ont donné 3 hélicoptères, Chinook, avec
Estoniens là-dedans.
Oui,
mais
il y a des Estoniens, mais ils sont 50, vous voyez, ils sont
Mais donc, ça n'est pas perçu comme une armée européenne.
Non, mais ce qui est nouveau, c'est que la crise qu'il y a en ce moment à l'OTAN, et qui est réelle avec le désengagement possible, de la menace américaine de se désengager, fait que... À la fois, Angela Merkel dit « Maintenant, nous devons être responsables », elle le dit devant le Bundestag, « Il faut engager plus d'argent pour notre défense ». Mais l'Allemagne reste l'Allemagne, elle y voit aussi son intérêt. Parce qu'au lieu d'acheter les pays avoisinants qui achètent des armes pour défendre, au lieu d'acheter des armes à l'Amérique, eh bien, ils les achèteront à l'Allemagne, toutes ces armes légères. Donc elle a envie, tout à fait, que l'Allemagne prenne plus sa place militaire au Sahel. Mais le problème, sa ministre de la Défense a fait un discours où elle s'est engagée. Elle dit qu'il faut revoir des militaires dans les rues en Allemagne. Elle dit ça, à caca. Sauf que en France, le chef des armées, c'est le président de la République. Et en Allemagne, le chef des armées, c'est le Bundestag.
Merci, grâce à Catherine Ney, on regarde un peu aussi les grands enjeux géopolitiques. Et on ne s'occupe pas que du 5 décembre. Le 5 décembre, le 5 décembre, dans deux minutes.
C'est Mediapolis sur Europe 1 avec vous, Catherine Ney et Olivier Duhamel. Ce matin, vous recevez Christophe Barbier, auteur de Macron sous les masques, paru aux éditions de l'Observatoire, et éditorialiste à l'hebdomadaire L'Express.
Le 5 décembre, je crois que je n'ai quasiment jamais connu un jour de grève aussi médiapolitique. De temps en temps, je rêve d'avoir une machine qui compte le nombre de fois où on dit dans les médias tel mot ou tel mot. Et si j'avais une machine qui avait pu compter combien de fois on a dit 5 décembre depuis un mois, je pense
que ce serait... Le mur du 5 décembre.
Oui, le mur du 5 décembre, la mobilisation du 5 décembre, la grève du 5 décembre, la RATP qui va bloquer le 5 décembre, l'EDF rejoint le 5 décembre, les médecins aussi le 5 décembre, des étudiants appellent le 5 décembre. À force, je me dis, mais si je ne me mets pas en grève le 5 décembre, c'est que je suis complètement à côté de la plaque. Il y a pour moi presque une mobilisation involontaire du système à force de 5 décembre brisés et 5 décembre brisés jour après jour.
Mais pourquoi ? Parce que c'est exactement comme un rendez-vous électoral. Quand on parle du rendez-vous du premier tour de la présidentielle, on dit le 21 avril, le 21 avril, le 21... Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on essaie d'opposer la légitimité de la rue qui a son jour pour voter avec les pieds le 5 décembre à la légitimité des urnes. C'était en mai 2017, l'élection de Macron. Voilà, on essaye de construire cette légitimité contre Macron.
Donc il est totalement... Alors j'en déduis quelque chose d'un peu provocant pour avoir votre réaction. Il est totalement impossible que le 5 décembre soit un échec. Ce sera forcément un succès. Mais ça n'a aucune importance, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est après.
C'est le 6, le 7, le 8. Ça dure jusqu'à quand ?
Moi, je dis c'est le 9,
parce que
le lundi.
Peut-être, enfin, chacun peut faire ses paris. Mais le pari de la CGT, c'est d'avoir la durée de grève qu'avait subie Juppé. Et s'ils ont choisi le 5 décembre, c'est justement par analogie au 5 décembre 1995, où là, ça avait duré 3 semaines et où... Eh bien, les régimes spéciaux que Juppé voulait réformer, eh bien, on avait cédé, on avait tourné la page, on n'en avait plus parlé. Or, on n'est pas du tout dans ce contexte, si vous voulez. Alors, peut-être que le gouvernement a tardé à bien faire comprendre ce qu'il voulait faire, où il voulait aller, que M. Delevoye, le co-commissaire, qui connaît très bien son sujet, est quelquefois un peu, si vous voulez, quelquefois il faut un décodeur pour les profanes, mais qui connaît très bien son sujet néanmoins. Donc là, maintenant, on commence juste un peu à savoir au moins la stratégie et un peu le but.
Oui, parce qu'en tout cas, cette semaine, Édouard Philippe a fait un élément de clarification en écartant la réforme brutale, totale, immédiate d'un côté, et la réforme calende grecque, clause dite du grand-père, j'ai jamais trop compris pourquoi, d'un autre côté, et en disant qu'il ferait un truc intermédiaire et qu'il négocierait les transitions.
Oui, c'est
et
ça,
il a eu raison de faire ce recul.
C'est une clarification qui n'en est pas une, hein, puisqu'évidemment, il a mis les deux bornes en disant ça sera entre les deux, mais ça, on le savait.
Si, non, on le savait pas.
La brutalité,
on croyait vraiment.
La brutalité était impossible et la clause du grand-père était impossible, puisque c'était une non-réforme. Donc on voyait bien que une manière d'agiter. C'est un peu comme la
réforme cet été. C'était une réforme renvoyée loin dans le temps. C'était pas une non-réforme.
Mais vous allez voir qu'elle va être renvoyée loin dans le temps pour certaines catégories. Parce que pour certaines catégories, on va considérer que le contrat passé avec l'État, puisque généralement ce sont des fonctionnaires, fait qu'on ne peut pas le trahir en cours de route. Regardez les enseignants.
Si
ils sont bien moins payés, nos enseignants, qu'en Allemagne. Pourquoi ? Parce qu'on leur dit, mais rassurez-vous, dans les 6 derniers mois, vous grimpez les indices et puis vous avez une bonne retraite. On ne peut pas les trahir en cours de carrière. Donc pour les enseignants, moi je suis partisan d'un étalement maximum du passage à la réforme suivante, pour qu'on ait le temps de faire une politique salariale qui rehausse les salaires des nouveaux enseignants. Et quand ils arriveront dans la retraite nouvelle formule, bah, ils auront les points qu'il faut et une retraite correcte. Pour d'autres, je suis résolu à un passage un petit peu plus brutal. Si vous êtes depuis 2 ans à la RATP, chauffeur de bus, vous n'allez pas pouvoir dire « Ah mais moi, dans 41 ans, je veux partir avec ma retraite comme les autres. Je veux partir à 52 ans. » Non, ce n'est pas possible. Vous êtes là depuis 2 ans. Bon, on va vous faire un petit avantage parce que quand vous avez signé, vous pensiez partir à 52 ans à la retraite. Mais comme vous êtes jeune, vous ne partirez pas à 52 ans et vous allez prendre le nouveau régime. Ce n'est quand même pas très compliqué de faire un prorata et un lissage de cette entrée dans la réforme.
Oui, et puis je dirais même chose pour les avocats. Eux, c'est un autre problème. Ils ne dépendent pas de l'État. Non. Ils ont leur caisse à eux qui marche, qui est bien gérée. Ils ont des retraites qui leur vend. Et je ne vois pas pourquoi l'État leur dirait, écoutez, par solidarité, vous mettez votre caisse qui est excédentaire dans le trou béant du régime. Et puis, vous aurez moins. Ce n'est pas possible. Donc, ça ne peut se faire, cette solidarité, cette universalité, qu'en prenant un temps assez long.
Exactement.
Quoi. Cheminer lentement.
C'est ça que j'aime bien, moi, avec les éditorialistes, c'est qu'ils nous font le programme ministériel. Quoi. Ils nous disent comment il faut faire.
Mais vous ne
tout.
Pouvez pas appliquer une grande réforme dans sa pureté de cristal. Écoutez, c'est comme en Norvège, moi je prends toujours l'exemple des fromages. Il y a un fromage, donc il y a un régime de retraite pour tout le monde le même. D'ailleurs, qui ne fait pas plaisir à tout le monde d'ailleurs. Tandis que comment voulez-vous, la France qui a 340...
Il n'y a pas compris le fromage.
Eh ben, il y a 300...
n'existe qu'un fromage en Norvège.
Oui, en Norvège. Tandis qu'en France, il y en a 343 et 45. Eh ben, vous ne pouvez pas appliquer la réforme, voilà. Cette réforme hegélienne.
Un acquis social, ça se rachète, ça s'éteint ou ça s'échange. Là, on n'a pas l'argent pour le racheter. Et donc donner des sous à ceux qui vont avoir une retraite plus faible. On ne peut pas l'échanger contre toi. Contre quoi on va échanger des retraites ?
Il faut faire de l'extinction progressive.
Donc voilà, lentement.
Voilà. Et voilà, et c'était donc le haut commissaire à la retraite, chargé des retraites, Christophe Barbier, qui était notre invité.
Assisté par la ministre quand même de la solidarité, Catherine.
Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, est-ce que Christophe Barbier va être candidat à la présidence des États-Unis ? Réponse dans quelques instants.
Chaque samedi de 10h à 11h sur Europe 1, vous écoutez Mediapolis. C'est avec vous, Olivier Duhamel et Catherine Ney. Ce samedi 30 novembre, nous vous retrouvons avec Christophe Barbier, éditorialiste Express.
Et chaque samedi, nous avons le retour de notre veille sur les médias internationaux. Alice Baudry, qui dirige la stratégie et le développement à l'Institut Montaigne, et qui a repéré un article du New York Times qui fait le point sur la campagne présidentielle aux États-Unis. Je vous rappelle que nous sommes à moins d'un an de l'élection présidentielle, ce qui est très peu aux États-Unis. Que dit cet article ? Que la sénatrice Kamala Harris a déclaré sa candidature à la présidence à l'occasion de l'anniversaire de Martin Luther King et a tenu son premier rassemblement devant une foule de 20 000 personnes à Oakland, en Californie. Que sa collègue, la sénatrice Elizabeth Warren, s'adressait à des milliers de personnes lors d'une journée d'hiver à Lawrence, dans le Massachusetts, sur le site de la grève historique des travailleurs du textile. Que Joe Biden, l'ancien vice-président, avait commencé sa course à la présidence devant une foule de syndiqués à Pittsburgh, avant de se lancer dans la campagne qui a débouché sur un rassemblement au cœur de la Philadelphie. Eh bien, Michael Bloomberg, quant à lui, a commencé sa campagne dans un dîner feutré du centre-ville de Norfolk, en Virginie, serrant la main, combinant les demandes de selfie et les regards perplexes avant de se rendre dans la salle de bal d'un hôtel et de faire une déclaration devant les caméras. Et lors de son premier meeting en tant que candidat à la présidentielle, Michael Bloomberg n'a pas hésité à souligner avec insistance, dit le New York Times, ce que sa richesse pourrait apporter. Je cite « Pendant des années, j'ai utilisé mes ressources pour les choses qui me tenaient à cœur, a déclaré M. Bloomberg, soulignant que ces causes comprenaient le contrôle des armes à feu et la lutte contre le changement climatique. Eh bien, cette avalanche d'argent lui a valu bien des critiques de la part de ses opposants. Qu'est-ce que vous pensez de la candidature dollar politique, plus que média politique, de Bloomberg aux États-Unis ?
Milliardaire contre milliardaire, celui de la communication et de la finance Bloomberg contre celui de l'immobilier Trump. Est-ce que ça sera ça le scénario de l'an prochain ?
Très très grand milliardaire Bloomberg contre New York, petit contre milliardaire Trump.
C'est ça.
Et oui, c'est ça.
C'est ça qui doit être insupportable à Trump, que vraiment Bloomberg soit beaucoup, beaucoup plus riche que
lui. Plus riche que lui.
Alors qu'il y a des doutes sur l'étendue de la richesse de Trump. On ne sait pas si.
Si ce n'est pas un fromage, pour reprendre votre métaphore, criblé de trous comme un gruyère.
Voilà, exactement.
Non, moi, ça me donne surtout l'impression
que. Le gruyère n'a pas de trous, je vous rappelle.
Oui, certes.
Puisque vous voulez être précis sur les fromages.
Les mentales. C'est très bon aussi. Pour moi, c'est la déshérence, c'est l'errance démocrate que l'on voit à travers cela. Ils ont leur héros Biden, parce que dans l'affaire ukrainienne, Trump, c'était contre Biden. Ils ont Bloomberg, leur nouvelle star, ils ont des femmes, ils ont des tas de candidats qui sont sur le papier tout à fait présentables. Ils ont même Bernie Sanders, qui, malgré ses pépins de santé, pèse encore sur le paysage. D'ailleurs, tous ces syndiqués, tous ces grévistes qui ont reçu la visite des candidats démocrates, c'est aussi parce que Sanders a obligé les démocrates à être un peu plus rouges depuis la dernière campagne. Mais tout ça ne fait pas un présidentiable ou une présidentielle.
Ça ne fait pas.
Personne ne s'impose.
Vous n'y voyez
oui, bien sûr. Oui. Mais à la même époque, juste avant l'élection d'Obama, donc il y a une dizaine d'années, Obama était dans la course des démocrates déjà celui qui attirait toute la curiosité,
oui, mais
qui fascinait.
Exemple, Clinton,
on se disait oh, il n'y arrivera jamais.
Oui, mais Clinton en 1992, vous étiez quand même déjà né, même si vous êtes plus jeune que moi.
Ça
Clinton
a surgi, plus tard.
A surgi tardivement.
Tout à fait.
Les petits barbiers de l'époque nous disaient il n'y a pas de candidat. Mais on parlait des nains démocrates.
Voilà.
Et puis patatras, il Clinton, il a gagné.
Alors, peut-être que le candidat démocrate de l'année prochaine n'est pas encore là, n'est pas encore dans la liste. Mais remontons encore le temps, Kennedy s'était préparé de longue date et de manière quasi dynastique.
Mais peut-être que Warren ou une autre deviendra la candidate soutenue et
peut-être.
Avec un.
Mais sur quel...
C'est trop tôt pour dire qu'ils sont tous
mais
mauvais.
Mais sur quel
barbier.
Avantage, sur quelle idée force
de son prénom.
Obama avait eu comme idée force l'Obamacare, c'est-à-dire la promesse d'un système de santé pour les Américains plus juste. Ça avait porté sa campagne, en plus de son charisme personnel et de l'Amérique noire qui arrivait au pouvoir. Là, quel est l'avantage décisif ? Quelle est l'idée dont on se dit celle-là, elle est en train de prendre racine dans la société américaine, celle qui fait la différence, celle des swing states, et ça va permettre aux démocrates de battre Trump. Je crains qu'il n'ait pas encore trouvé la martingale, comme on dit au poker.
Mais oui, là, vous venez pour employer le mot charisme. Bon, quand Clinton s'est présenté, on voyait déjà, je me souviens, les journalistes qui avaient été le voir disaient que c'était quand même un bison de... Il est de l'Arkansas ou du Kansas déjà ?
Arkansas.
Un bison de l'Arkansas, voilà,
Little
parce qu'il
Rock.
Avait une espèce de stature. Voilà, il dégageait du, voilà, quelque chose. Donc il avait un physique de président.
Exact.
Bon, Obama, ça a été pareil. Quoi. C'était, on disait, le couple Obama, c'était les Kennedy africains, quoi,
voilà.
Devenus d'Afrique. C'était des Bostoniens, même. Ils étaient plus Bostoniens que les Kennedy. Ils étaient extraordinaires. Ils avaient une grâce naturelle qui leur était propre.
Là, on la voit pas.
Eh bien, sur ceux que vous venez de citer, là, on la voit pas.
Ou pas encore.
Alors, peut-être parce qu'on les connaît pas assez. Hein, mais voilà.
Bon, écoutez, ce qui est certain, c'est qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pendant ce temps-là, chez nous, cette semaine, nous avons assisté à quelque chose d'assez étonnant par rapport à tout ce qu'on dit sur le 5 décembre, parce que quand même, il faut bien dire 5 décembre, au moins toutes les 3 minutes. C'est un mouvement de protestation des agriculteurs, soutenu par le gouvernement et critique de la grève du 5 décembre. Là, il n'y a qu'en France qu'on voit des choses aussi extraordinaires. On précise dans moins de 2 minutes.
Cet Europe 1, merci de nous rejoindre de 10h à 11h le samedi. Vous écoutez Mediapolis. Ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney, vous recevez Christophe Barbier, éditorialiste au magazine L'Express et auteur de Macron sous les masques, sorti aux éditions de l'Observatoire.
Alors, écoutez un extrait de la matinale de Mathieu Béliard ce mercredi matin. Et je précise, ça n'est pas Canteloup.
Je soutiens leur colère et cette manifestation parce qu'aujourd'hui, trop, c'est trop.
Didier Guillaume,
Non mais écoutez, je termine,
veux bien que vous les souteniez, mais vous êtes en responsabilité. Concrètement, vous leur proposez quoi ?
mais, Mais concrètement, on leur propose, avec la loi Egalim, une inversion de la construction des prix. On leur propose de les soutenir face à la grande distribution afin que leurs prix remontent. On les aide dans toute la transition agroécologique afin qu'aujourd'hui, le lien entre la société et les agriculteurs ne soit pas distendu. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui de cette manifestation ? C'est arrêter de nous agresser, arrêter de nous insulter, de nous traiter de pollueurs et d'empoisonneurs. Arrêter de rentrer dans nos élevages. Ce week-end encore, 3 élevages ont pris feu.
Et oui, c'était le ministre de l'Agriculture qui soutenait ses agriculteurs. Un classique, somme toute. Mais là, loin, parce qu'il les soutient le jour d'une protestation. Oui. Christophe Barbier.
Ah oui, c'est très paradoxal. Les agriculteurs qui ont bénéficié de cette loi Egalim qui n'est pas efficace, qui trouvent donc le soutien du gouvernement qui a écrit la loi contre la grande distribution qui met en rage les uns et les autres. Après, ce soutien, pour l'instant, il est un petit peu stérile. Par ailleurs, le gouvernement apporte aux agriculteurs, avec la réforme des retraites, la garantie d'une retraite à 1 000 euros, là où la retraite moyenne des agriculteurs est bien inférieure.
300 euros.
Voilà. Donc, il y a une sorte d'alliance du gouvernement et des agriculteurs contre deux parties de la France. Les écolos les plus radicaux qui veulent détruire les abattoirs et qu'on ne mange plus de viande et qui traitent les agriculteurs, en effet, de pollueurs parce qu'ils utilisent des produits chimiques. Et de l'autre côté, la frange la plus à gauche des travailleurs qui est contre cette réforme des retraites dont l'un des secteurs bénéficiaires serait l'agriculture. Donc, en effet, c'est à front renversé. Par ailleurs, l'opinion est derrière les paysans. On aime les paysans dans notre pays. Le succès du Salon de l'Agriculture, chaque année, le rappelle. Alors, est-ce que tout ça peut faire une mayonnaise électorale et permettre à Macron, en 2022, d'avoir un vote rural qu'il n'a pas eu en 2017 ? Il était le président des centres-villes et des bobos. Ça, on en est loin, quand même.
Non, mais vous, vous annoncez même dans votre livre, puisque vous vous en revenez à Macron et qu'on approche de la fin de l'émission, vous annoncez même dans votre livre que Macron va très probablement échouer, hein. Je vous signale. Si...
Ah, je pense qu'il est en très grande difficulté, monsieur.
À un peu plus de 2 ans de la fin de son mandat, le désastre est toujours possible.
Oui, ça peut être le 5
décembre.
L'échec
est probable.
Oui.
L'échec est probable. La déception est certaine. La réussite est éventuelle.
Voilà.
C'est vous qui écrivez ça dans votre dernier ouvrage, Macron, sous les masques.
Eh bien, avec ce même cocktail pessimiste,
donc vous annoncez...
Jacques Chirac a été réélu en 2002.
Non, mais voyez le talent du...
Bah oui.
Non, mais donc, il n'est pas vrai.
Ça pas, c'est pas
il
parce
prend
qu'il
un
ça.
Risque, bah oui. Il annonce, l'échec est probable, mais pour se couvrir, aussi sec,
mais,
il dit...
Mais c'est
ah
évident.
Oui, mais dans les mêmes conditions, Chirac a
mais
été
on peut très bien échouer.
Oui,
on peut très bien échouer
donc,
dans sa politique
vous,
et être réélu.
Mais je vous annonce un scoop extraordinaire. Je pense que Macron soit élu, soit battu.
Simplement, vous oubliez que
mais
la présidentielle...
en même temps.
La présidentielle, c'est pas un examen. Si la présidentielle était un examen, Macron raterait en 2022. Il n'a pas le niveau, il n'a pas de bons résultats. Sa politique ne marche pas assez bien et assez vite. Mais c'est pas un examen, la présidentielle, c'est un concours. Il s'agit d'être moins mauvais que tous les autres.
Non. C'est
mais
pas
si. Mais non, mais quand vous dites Chirac a gagné, petite mais c'est parenthèse. Parce qu'il avait... par miracle, Monsieur Le Pen père,
ah bah oui.
Et qui,
mais
est,
pas par
qui
miracle, faisait, mais parce
qui
que
faisait
Jospin
peur.
Avait raté sa campagne.
Qui oui,
ah bah voilà,
qui faisait peur à tout le monde.
La présidentielle, vous pouvez gagner en 19% au premier tour. Ça
je récuse la métaphore du concours.
Mais pourquoi
parce, mais je vais vous expliquer, si vous me permettez. Parce qu'à un concours, on peut toujours ne pas attribuer le poste, en considérant que les gens ne remplissent pas les conditions. C'est un match. Donc, en effet, on peut gagner en étant mauvais si l'autre est pire. Mais c'est pas juste voilà.
Certes, j'accepte la nuance. Mais dans ce match,
une fois que je reprends un normalien qui me rend les armes.
Dans ce match, Macron aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il a le public contre lui, il a l'arbitre contre lui, il a une équipe adverse renforcée et déchaînée. Mais il peut quand même gagner si les ballons heurtent les poteaux et s'il a un pénalty à la dernière minute. Donc vous voyez, le résultat électoral n'est pas forcément corrélé au résultat politique. Politiquement, le désastre est possible. On va peut-être le voir dans quelques jours au 5 décembre.
Bah, vous croyez vraiment ?
Mais bien sûr.
Vous
ce que les Gilets jaunes ont raté l'année dernière avec une action toutes les semaines très virulente que Macron a réduite et a renversée grâce au grand débat. Peut-être que la France... coaliser des colères va le réussir.
Moi, je pense
que
comme Jérôme Jaffré, qu'il y a juxtaposition, mais qu'il n'y a pas coagulation.
Je suis d'accord avec vous. Mais l'espoir de ces gauches radicales, c'est de passer de la juxtaposition à la coagulation. Vous savez, il suffit d'une maladresse ministérielle, d'un drame dans une manif, d'un policier qui tire, et on bascule dans autre chose. Un État, ça peut s'effondrer. On n'est pas passé loin l'an dernier. Donc, le désastre est possible. La déception est certaine parce que les gens n'aiment plus Macron, ils sont déçus, une partie de ceux qui ont voté pour lui aussi. L'échec est probable parce que ce qu'il a fait, les réformes qu'il a faites, et qui pour moi sont pour l'essentiel de bonnes réformes, ne donnent pas de résultats, en tout cas pas assez vite. Le chômage ne s'effondre pas alors qu'on a réformé le droit du travail et qu'on a réformé l'assurance chômage. Pourquoi le chômage ne s'effondre-t-il pas ?
Bon, donc, conclusion de Christophe Barbier, l'échec est probable, Mais l'échec n'empêche pas forcément la victoire, parce qu'il faut distinguer l'échec politique du résultat électoral. En tout cas, c'est prudent, mais c'est fin. Allez, pour terminer, nous avons une chanson qui nous a été trouvée par Jean-Luc Arblade, notre merveilleux réalisateur, qui évoque le pouvoir de la musique pour apaiser les douleurs et faire changer les choses dans le bon sens. C'est un bel hymne écrit par l'écrivaine Emmanuelle Cosso et composé par Daran. Florent Pagny, si une chanson.
Si une chanson a le pouvoir de faire oublier une seconde la douleur, si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanter. Chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut. Une chanson peut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle sait allumer une flamme dans le noir, alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Chanter et faire écouter l'émission en podcast sur europe1.fr. Dites-le à vos amis. Belle émission pour laquelle je remercie Christophe Barbier, notre invité, mais aussi notre réalisateur Jean-Luc Arblade. La préparation par Capucine Patouillet, la compagnie de Géraldine. Et puis maintenant, on salue l'ami Mariotte.
Tout à fait, puisque dès 11h, on passe à table sur Europe 1. Bonjour Laurent, quel est le programme aujourd'hui ?
Bonjour et merci Catherine et Olivier. Bonjour Géraldine. Ce matin, nous recevons Alexandre Stern, un explorateur du goût. Entre la châtaigne d'eau et le café Geisha, nous allons voir que tous les goûts sont dans la nature. Et puis nous partagerons aussi un joli plat de paupiettes avec notre invité Pierre Gagnère. A tout de suite Géraldine.
A tout de suite Laurent.